France Culture. Ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième saison d'été des grands accords internationaux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord de garantie qui lie les États-Unis à Taïwan depuis 1979 et de sa mise à l'épreuve par le second mandat de Donald Trump. C'est le principal héritage de la guerre civile chinoise. En 1949, après avoir été défait par les communistes de Mao, les nationalistes de Chiang Kai-shek et le Kuomintang se sont repliés à Taïwan et ils y sont restés. Depuis qu'ils ont instauré des relations diplomatiques avec Pékin en 1979, rompant ainsi avec celles qu'ils entretenaient avec Taïwan, les États-Unis se sont engagés à défendre les intérêts de l'île en cas d'action unilatérale de la Chine. Protégée par l'assurance vie du Taiwan Relations Act, l'ancienne Formose a instauré au fil des années une démocratie devenue presque parfaite qui sert de dangereux contre-modèle à la Chine restée communiste. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Xi Jinping a un objectif, réunifier la Chine en faisant rentrer Taïwan sous la domination de Pékin par la force s'il le faut. Au début de son premier mandat, Donald Trump avait semblé rompre le statu quo, briser l'ambiguïté maintenue par les administrations américaines successives et pris le parti de Taïwan en instaurant un dialogue direct avec Taipei. Un an plus tard, le Taiwan Travel Act, qui autorisait des visites de haut niveau entre les gouvernements américains et taïwanais, avait signalé un nouveau rapprochement d'une ampleur inédite. Mais depuis, les alliances des États-Unis ont été mises à rude épreuve par la politique étrangère disruptive de Donald Trump, la défiance qu'il manifeste envers certains de ses alliés, sa volonté de rendre tout soutien militaire payant et sa menace d'abandonner l'Ukraine. En même temps, Donald Trump ne cesse de redire que tous les intérêts de l'Amérique sont dans cette région. Alors que les provocations militaires de la part de la Chine de Xi Jinping se multiplient vis-à-vis de Taïwan depuis plusieurs années, la garantie de sécurité américaine est-elle toujours aussi solide? Pour en parler avec nous, Alice Ekman. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Chine et directrice de recherche à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Votre dernier livre, Dernier vol pour Pékin, a été publié en 2024 chez Flammarion. Et Camille Grand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur senior au Conseil européen pour les relations internationales et ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Vous revenez par ailleurs de Taïwan et vous avez publié sur le site de l'ECFR un grand papier sur le sujet, le jeu d'équilibre de Taïwan entre garder les États-Unis dedans, les Chinois dehors et la technologie taïwanaise au premier plan. Bonjour à tous les deux. Alors, on va commencer un petit peu par rappeler le Taiwan Relations Act qui a été signé à Washington en 1979. Alice Ekman, quel type de garantie offrait-il à Taïwan? Dans quel contexte, en fait, a-t-il été conclu?
Il a été conclu, comme vous l'avez dit en introduction, dans un contexte de reconnaissance par Washington de la République populaire de Chine, donc la capitale Pékin, comme l'unique Chine avec laquelle il entretient une relation diplomatique, et donc la perte de relations diplomatiques officielles avec la République de Chine, Taïwan, donc. Et ces documents, donc, structurent les relations pour rappeler que même si Washington ne reconnaît plus officiellement la République de Chine, les liens doivent être maintenus, des liens culturels, économiques, mais surtout en matière de sécurité. Et quand on regarde en détail le Taiwan Relations Act, je me suis replongée à la faveur de cette émission, on voit vraiment que c'est un document qui cadre finalement la coopération en matière de défense et militaire. Parce que comme vous le savez, donc, ce document ne garantit pas d'intervention militaire des États-Unis en faveur de Taïwan si cette île était envahie, clairement. Mais elle mentionne, et là je cite, que les États-Unis s'engagent à aider à maintenir la paix, la sécurité, la stabilité dans le Pacifique occidental, tel qu'on l'appelait à cette époque. Et alors, section 2, alinéa E, offrir, à porter à Taïwan l'armement à caractère défensif qui serait donc nécessaire pour assurer cette stabilité, sa sécurité. Et ensuite, on a la section 3. Alors, Alors, je ne vais pas être trop procédurière et dans le détail, mais c'est important de vraiment de voir que ce document formalise aussi la vente d'armement à Taïwan. Les États-Unis s'engagent à mettre à disposition de Taïwan des articles de défense et des services de défense en quantité suffisante pour assurer à Taïwan les capacités d'autodéfense. Bon, bien sûr, c'est des formulations assez diplomatiques, mais qui montrent bien que, on va vous soutenir, on va vous fournir des armes qui vous permettront de vous défendre, pas en cas d'attaque, c'est pas mal, mais qui vous serviront de défendre à court, moyen et long terme. Et ça, c'est vraiment ce cadre-là qui est toujours existant, qui n'a pas été remis en cause par les administrations américaines successives et qui n'est, de mon point de vue, certainement pas remis en cause par l'administration Trump, et on y reviendra certainement.
On y reviendra. Je voudrais juste qu'on entende un petit son. En fait, c'est une archive INA qui date du 11 février 1979, au moment justement du rapprochement entre les États-Unis et la Chine populaire de Deng Xiaoping.
Certains alliés des États-Unis reprochent au gouvernement américain d'abandonner les hommes ou les régimes sur lesquels Washington s'était appuyé. Ceux qui formulent ces griefs à l'encontre du président Carter citent, par exemple, le cas de Formose, de Taïwan, sacrifié au rapprochement avec la Chine populaire. Et Jimmy Carter a sans doute voulu désarmer ses critiques en déclarant « Rien n'empêcherait les États-Unis d'aller jusqu'à la guerre pour défendre Taïwan en cas de besoin ». Alors Jacqueline Dubois, vous avez suivi cette tournée du vice-premier ministre chinois, M. Deng Xiaoping, aux États-Unis. Est-ce que cette déclaration du président Carter, envisageant de se rendre éventuellement, de se porter au secours de Taïwan, si Taïwan était attaqué, est-ce que ce n'est pas un recul de la politique américaine ?
Un recul un petit peu peut-être, en quelque sorte. Parce que si le Taïwan n'existait pas, les relations diplomatiques sino-américaines auraient été rétablies après le voyage de Richard Nixon en Chine en 1972 déjà. Taïwan était en effet le seul obstacle au rétablissement de ces relations. Parce que pour les Américains, le détroit situé dans le Pacifique représentait et représente toujours un important appui stratégique. Et aussi parce que les hommes d'affaires américains y avaient investi des capitaux énormes.
Alors à l'époque, Camille Grand, les États-Unis avaient changé d'alliance diplomatique. Ils avaient délaissé Taïwan, en quelque sorte, au profit de la Chine populaire. Est-ce qu'on peut considérer cet accord de 79 comme une espèce de compensation? Et surtout, pourquoi, au niveau politique, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette histoire très importante, en fait, dans le rapprochement entre les États-Unis et la Chine?
Alors, effectivement, l'accord de 79, il intervient au terme d'un processus, en réalité, de rapprochement sino-américain. En 1949, au moment de la proclamation de la République populaire, les États-Unis ne reconnaissent qu'une seule Chine, qui est celle de Taïwan. Et donc, de 49 à 79, vont donner à la Chine l'ensemble de cette reconnaissance diplomatique, y compris d'ailleurs le siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui était quand même assez extraordinaire, on peut dire. Et les États-Unis vont mettre plus de temps que d'autres pays. La France, c'est en 1964 qu'elle fait le virage de la reconnaissance de la Chine populaire au détriment de la République de Formose ou de Taïwan. Et donc,
qu'est-ce qui avait motivé les États-Unis à l'époque?
Et les États-Unis à l'époque, c'est un double mouvement. C'est un premier mouvement qui est un mouvement anti-soviétique, c'est-à-dire de dire, au fond, la Chine s'étant distancée de l'Union soviétique, il y a une sorte de rapprochement sino-américain stratégique contre l'URSS à l'époque, et c'est toute la manœuvre de Kissinger à partir du début des années 70, avec des visites en Chine, des échanges avec les homologues chinois, qui va amener cette reconnaissance quelques années plus tard, donc qui va amener d'abord la reconnaissance de la Chine populaire, puis ce Taïwan, acte de 79, qui va en quelque sorte boucler cette séquence. L'idée pour les Américains, c'est, sans renoncer à leurs alliances dans le Pacifique, ils restent présents en Corée du Sud, au Japon, et ils nouent avec Taïwan une relation sécuritaire qui demeure jusqu'à aujourd'hui, ils vont faire cette grande manœuvre de rapprochement avec Pékin. Cette manœuvre de rapprochement avec Pékin, au-delà de la dimension anti-soviétique, a aussi une dimension de reconnaissance, un petit peu comme d'autres l'avaient fait avant les États-Unis, de réalité stratégique d'un pays qui, à l'époque, devait déjà approcher le milliard d'habitants, par rapport à une petite île nationaliste dont les chances de reprendre le pouvoir sur le continent étaient devenues ridicules. Donc il y a une forme de reconnaissance assez réaliste, on va dire, de la situation en Asie orientale, mais avec quand même, et Alice le rappelait, dans le cœur du texte, l'idée qu'il ne s'agit pas d'abandonner Taïwan à la Chine. Et donc, ça n'est pas, de ce point de vue-là, c'est assez différent, par exemple, du moment où les Britanniques se retirent de Hong Kong, ils reconnaissent la souveraineté, etc. Donc, c'est le basculement vers une politique dans la région qui est différente, mais qui n'est pas non plus celle d'un abandon complet de Taïwan. Et c'est ce qui a finalement duré, durant encore aujourd'hui, depuis plus de 40 ans, dans ce contexte-là.
Mais alors, Camille Grand, j'ai une petite question encore aussi pour vous. Est-ce que cet accord entre les États-Unis et Taïwan est plus solide que le mémorandum de Budapest, c'est-à-dire l'accord qui a été signé en 1994, qui devait protéger l'Ukraine des assauts de la Russie et qui a été violé par la Russie et qui finalement s'était avéré être un tigre de papier?
Alors, c'est un accord très différent, parce que c'est un accord bilatéral, d'abord, et c'est une législation américaine qui pose les relations avec Taïwan.
Donc, il est plus solide.
Il est plus solide que le mémorandum de Budapest de 1994 avec l'Ukraine, qui lui posait plutôt une idée générale qu'en compensation de sa dénucléarisation, l'Ukraine bénéficiait de sortes de garanties assez vagues données par les trois États signataires, qui étaient la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni.
Suivi de la Chine et de la France.
Suivi de la Chine et de la France qui s'y sont associés plus tard. Donc on est dans quelque chose d'assez différent. C'est un objet politique. Deuxièmement, et c'est une des forces des Taïwanais traditionnellement, tout ceci est ancré dans la législation américaine et les Taïwanais ont des soutiens au Congrès des États-Unis qui sont assez vigilants sur ce dispositif. Il y a un très fort, on peut dire, lobby, mais pas au sens péjoratif, taïwanais à Washington, qui est très actif jusqu'à aujourd'hui et qui veille à la protection des intérêts de Taipei dans le débat américain. Alors après, évidemment, que ça n'est pas une alliance militaire gravée dans le marbre au même sens que l'OTAN en Europe ou que les accords qui lient les États-Unis à la Chine, au Japon ou à l'Australie, par exemple. Donc là, il y a une forme d'incertitude plus forte, notamment avec un président Trump, sans vouloir aller jusqu'à aujourd'hui, mais même tout simplement avec, par exemple, un Congrès des États-Unis qui serait plus prudent, et puis le jeu, finalement, d'un lobby chinois qui va peser sur les décisions américaines, y compris, par exemple, pour la qualité des armements livrés à la Taipei, pour la densité de la relation politique, etc. Et on voit que depuis 1979, finalement, les principes posés dans cet accord de relations politiques, de livraison d'armes, d'une forme de garantie de sécurité, on peut appeler ça comme ça, ont quand même été sans arrêt soumis à des tensions, à la fois du fait des pressions chinoises, mais aussi des demandes taïwanaises. Et donc, il y a une espèce de tension permanente, même si on peut maintenant s'interroger sur le fait de savoir si on entre dans une nouvelle époque de ce point de vue-là.
Alors justement, j'ai une question à 1 million de dollars pour vous, Alice Ekman. Le Taiwan Relations Act tient-il toujours avec Donald Trump?
Oui, tout à fait. Et il faut bien se rappeler que le Taiwan Relations Act, c'est pas un accord entre Taïwan et États-Unis, c'est une loi du Congrès américain.
Oui, mais enfin, de facto.
Non, en fait, c'est aussi les Américains qui disent, on va continuer nos relations avec Taïwan malgré la reconnaissance diplomatique de la RPC et on va continuer à les soutenir militairement. Mais c'est très important dans le sens, je dis ça parce que, en fait, il reste en place Taiwan Relations Act, indépendamment aussi de l'administration taïwanaise en place, même si, bien sûr, il y a des tensions, etc. Mais c'est vraiment.
Vous voulez dire que Taïwan serait défendu, même s'il le refusait?
Je veux juste dire que c'est, finalement, c'est un document qui a formalisé les relations informelles qui existent entre Taïwan et de nombreux autres pays aussi. La différence du Taiwan Relations Act, c'est la dimension de sécurité, je voudrais dire, qui est quand même plus marquée que les liens de sécurité, bien sûr, comme on le savait, entre d'autres pays, comme par exemple ceux que la France entretient avec Taïwan, même s'il y en a aussi, avec la vente d'équipements, et enfin, on connaît l'histoire. Mais côté américain, pour répondre à votre question plus spécifiquement, est-ce que ce document est encore d'actualité sous l'administration Trump 2? Moi, je regarderai les ventes d'armes, en fait, parce que finalement, ce document formalise la continuité et la nécessité de fournir des armes à Taïwan. Donc la question, c'est qu'en effet, malgré les condamnations chinoises, malgré les choses de l'administration, quel est l'état des ventes d'armes sous Trump 2? On est trop tôt pour savoir puisqu'on est au début de son mandat, mais on a commencé à avoir des estimations. L'administration américaine espère faire aussi bien que Trump 1 en termes de ventes d'armes. C'est-à-dire que Trump 1, on avait des ventes qui ont été approuvées pour un total de 18 milliards, des ventes d'armes à Taïwan pour 18 milliards. Et il serait estimé qu'ils arrivent au moins à ce chiffre, voire plus. En titre de comparaison, sous Joe Biden, les ventes d'armes américaines à Taïwan ont atteint un total de 8 milliards de dollars. Donc, c'est intéressant de prendre en compte cela. C'est-à-dire que, bien sûr, on a l'impression que Trump n'a pas beaucoup parlé de Taïwan, n'a même pas parlé du tout lors de son discours d'investiture du 20 janvier. On a l'impression qu'il se disperse avec des tentatives de discussion, de négociation tous azimuts sur toutes les régions du monde, qu'il n'a pas vraiment de vision stratégique.
Et surtout, on a l'impression qu'il malmène ses alliés,
oui,
et qu'il a une attirance pour certains autocrates comme Vladimir Poutine.
Oui, enfin ça, on pourra voir, parce qu'il a quand même traité de fou il y a quelques jours, alors on se parle...
Souvent, Trump varie.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, je ne vois pas de signe de changement de cap des États-Unis vis-à-vis de Taïwan depuis le début du mandat Trump, et je n'en prévois pas. Ce que je prévois, et je pense que beaucoup d'analystes prévoient aussi, c'est une approche plus transactionnelle. Ce n'est pas très original. Hein,
c'est-à-dire que l'aide va...
C'est-à-dire qu'on fait référence à sa campagne, il a été assez clair lors d'une interview qu'il avait donnée à Bloomberg au cœur de sa campagne à l'été dernier. Il a dit... le parapluie américain, je cite en substance de mémoire, ça se paye. C'est-à-dire qu'on est un peu comme une compagnie d'assurance. Si vous voulez bénéficier de notre police d'assurance, il faut payer. Hein, et puis, il faut bien payer. Et donc, en fait, vraiment, on va, à mon avis, rentrer dans une phase de négociation plus importante. Déjà, comme vous le savez, on a une phase de négociation commerciale avec Taïwan, avec les droits de douane. Taïwan qui a été touché lourdement comparé aux attentes du gouvernement taïwanais et des dispositions et des bonnes relations, relativement bonnes relations qui avaient été entretenues entre Taipei et Washington, mais aussi Taïwan là va entrer avec les États-Unis dans une phase de négociation plus militaire sur les achats d'armement, c'est déjà en cours et c'est vraiment, je pense, cette continuité qu'il faut lire aujourd'hui. On n'a pas de revirement parce que les États-Unis souhaitent toujours soutenir Taïwan très concrètement et comme vous l'avez dit en introduction, la menace chinoise reste finalement la première des menaces telles que perçues par Washington. Donc lâcher Taïwan, ça voudrait dire aussi envoyer, bon, on est bien cet argument, mais qui est quand même vrai, envoyer un signal finalement négatif aux alliés américains en Asie-Pacifique, au Japon, en Corée du Sud. Non, les États-Unis aujourd'hui ne lâchent pas à Taïwan et un des signes, s'il en faut finalement du soutien continu des États-Unis à Taïwan et le discours récent du secrétaire américain à la Défense lors du forum de sécurité de Singapour, le Shangri-La Dialogue, qui s'est tenu il y a quelques jours à l'heure où l'on se parle.
Oui, puisque nous enregistrons cette émission début juin 2025.
Oui, et donc le secrétaire d'État à la Défense a bien précisé que, selon lui, une invasion de Taïwan était... possible d'ici 2027 et que l'armée populaire de libération renforçait ses capacités militaires pour une telle invasion. Alors, d'un point de vue analytique, il faut toujours lire entre les lignes parce que on n'a pas de preuves aujourd'hui. Bien sûr qu'on a une preuve du renforcement des capacités militaires chinoises, mais on n'a pas de preuve d'un objectif d'invasion à l'horizon 2027. Cette date a été régulièrement répétée par l'administration américaine. On n'a pas de preuve. Par contre, ce document et ce discours est intéressant parce qu'il prouve que la menace chinoise vis-à-vis de Taïwan est considérée comme un problème majeur par l'administration Trump et que l'argument taïwanais appelle les États-Unis à renforcer leur position de leur présence, leur position de sécurité en Asie-Pacifique, mais aussi à dire vraiment il faut que vous passiez commande, si vous dire on est dans une course aux armements dans la région, mais il faut que vous passiez commande parce qu'en fait il y a des invasions probables, il faut que vous puissiez réagir, vous protéger face à ces invasions.
Alors, Camille Grand, vous revenez de Taïwan. Est-ce qu'on redoute un lâchage américain à Taïwan ou pas du tout, justement?
Je pense qu'il y a quand même une vraie inquiétude. Alors, l'inquiétude, comme Alice le rappelait, il n'y a pas de message explicite de l'administration Trump. Et il y a même plutôt des messages dans le sens inverse sur le fait que les relations de sécurité entre les États-Unis et Taïwan vont s'interrompre du jour au lendemain. Mais il y a quand même une perception assez nette d'un Trump imprévisible, c'est pas un scoop, et de messages un peu ambigus d'une partie de l'administration. Moi, la manière, et c'est juste une nuance avec la manière dont Alice écrivait les choses, que j'introduirais, c'est l'idée qu'il y a quand même une tension dans le système américain entre un courant très fort, bipartisan, qui donne la priorité à la rivalité avec la Chine et qui donc fait de Taïwan un peu un des points chauds de cette rivalité et qui donc est très solide sur sa garantie à Taïwan. Et c'est notamment le point de vue très net du Pentagone qui dimensionne une grande partie de son outil militaire, de son positionnement en Asie pour l'hypothèse d'une crise autour de Taïwan et qui va pousser ça. C'est exactement ce qu'a dit Peter Hegseth, le secrétaire à la Défense à Singapour, il n'y a pas très longtemps. Mais il y a aussi une deuxième tendance dans le camp républicain, qui est une tendance plus isolationniste en général, alors qui est très brutale vis-à-vis des Européens, occupez-vous de votre sécurité, mais qui, dans le contexte asiatique, dit aussi aux alliés, si vous n'augmentez pas vos dépenses de défense, si vous n'êtes pas responsable de votre sécurité, on verra bien ce qu'on va faire. Et donc avec une sorte de pression en creux sur les alliés asiatiques, que ce soit le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan. Et Taïwan étant de ce point de vue-là en première ligne parce qu'avec une relation de sécurité moins solide, il n'y a pas de troupes américaines en permanence, il n'y a pas de traité, on l'a rappelé tout à l'heure. Donc je trouve que cette tension existe et il faut rajouter par-dessus tout ça le côté un peu imprévisible de Trump avec un président Xi qui pourrait se dire au fond... Donald Trump, il parle beaucoup, mais le moment venu, il ne fera pas ce qu'il faut pour défendre Taïwan si je mets en place un blocus, parce qu'il aura peur d'un conflit, parce qu'il dira qu'il n'est pas le président qui déclenche de nouvelles guerres, etc., etc. Donc, il y a ce petit grain du doute qui existe dans la tête des Taïwanais, qui probablement n'existait pas auparavant, où les choses étaient plus lisses dans la relation, et où il s'agissait, au fond... de lui donner de l'épaisseur dans la durée, etc. Donc, pour moi, c'est ça le distinguo Trump. C'est pas tellement... oui, on est plutôt, contrairement avec les relations avec l'Europe ou avec d'autres parties du monde, dans une logique de continuité, mais avec cette petite inquiétude qui est liée à la fois à l'existence d'un courant isolationniste fort, dont le vice-président Vance, par exemple, est une incarnation, et par ailleurs d'un Trump qui n'est pas jugé comme fiable à 100% au moment de la crise.
Alors, il y a une expression, justement, à Taïwan, pour parler de ce scepticisme vis-à-vis de l'Amérique, c'est « Yi Mei Lun ». Et moi, j'ai regardé les sondages, et c'est vrai que avant l'élection de Trump, les Taïwanais sont majoritairement trumpistes, et qu'après la prise de fonction de Donald Trump, ça se casse un petit peu la figure. Est-ce que c'est l'incertitude vis-à-vis de l'engagement américain en Ukraine qui provoque, en fait, cette fissure à Taïwan ou pas, Camille Grand ?
Alors, moi, mon impression, mais je serais évidemment intéressé d'entendre Alice là-dessus, mais en parlant aux Taïwanais, c'est, au fond, une incertitude générale sur les États-Unis. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'avant l'arrivée aux affaires de l'administration de Trump, il y avait plutôt l'idée que les Républicains, c'était plutôt plus favorable que les démocrates, que Trump, parce qu'il était plus solide, il allait être peut-être même plus fiable que Biden. Les premiers mois de l'administration, avec la multiplication des taxes, des tarifs douaniers, d'une part, et d'autre part, cette pression sur « il faut que vous soyez capable de vous défendre davantage tout seul », en Europe, on parle de 5% du PIB. Il est demandé aux Taïwanais de mettre 10% de leur PIB sur leur défense à Taipei. On rappelle que ça fait 84% du budget de Taïwan dans son ensemble qui devrait être mis sur la défense.
Soit 2,5% aujourd'hui,
oui,
c'est ça.
2,5% hein. aujourd'hui. Donc, c'est quadruplement du budget de la défense qui est attendu, ce qui évidemment est à la fois très difficilement absorbable et compliqué. Donc, il y a cette forme de pression qui existe et qui fait que, on le voit assez bien dans les sondages locaux, la confiance dans les États-Unis et la confiance dans Donald Trump s'est effritée. Mais à la fin des fins, et ça je crois que c'est vraiment important de le rappeler, et c'est une grosse différence par rapport aux Européens, ou même par rapport à d'autres pays asiatiques, il n'y a pas de plan B pour Taïwan. C'est-à-dire qu'ils doivent faire confiance aux États-Unis pour leur sécurité, il faut qu'ils comptent sur des États-Unis, voilà. Ils ne vont pas tout seuls se défendre contre la Chine populaire. Et il n'y a pas non plus une alliance formidable avec le Japon, les Philippines ou l'Australie qui va se substituer à l'alliance américaine. Évidemment, ils multiplient les liens avec ces pays-là, ils essayent de s'insérer dans un ensemble un peu plus vaste, mais ces pays vont pas du jour au lendemain dire « on va faire une alliance militaire » parce qu'ils voient bien que pour eux-mêmes, ça emporte des conséquences plus compliquées.
France Culture, ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Alice Ekman, Taïwan n'aurait pas les moyens de se défendre contre la Chine sans l'aide des États-Unis.
Ah non,
combien de temps
pas dans l'immédiat, à la fois en matière, on va dire, de capacité militaire avec les équipements, mais aussi en matière, on va dire, de niveau de préparation des troupes taïwanaises elles-mêmes. Hein. Comme vous le savez, le service militaire est passé de 4 mois à 1 an, mais la population, on va dire, n'est pas prête, à la fois concrètement, en termes de formation, mais aussi, on pourrait même dire, sans porter de jugement de valeur, psychologiquement, en tout cas, quand on compare, par exemple, la population sud-coréenne, qui est vraiment familiarisée avec la menace quotidienne. La première des menaces perçues côté taïwanais, c'est avant tout la menace informationnelle, les opérations de désinformation, de propagande, de déstabilisation qui sont bien réelles sur l'île. Mais c'est vrai, pour revenir à ce que disait Camille, que alors il y a deux choses. Moi, tout à l'heure, je parlais de l'analyse, ce que va faire Trump réellement. De mon point de vue, il n'y a pas de doute. Bien sûr, il y a toujours ce questionnement. Je me souviens, ça fait voilà, plus de 15 ans qu'on se pose la question du soutien réel, effectif des États-Unis à Taïwan, compte tenu de la distance, compte tenu des différents théâtres d'opérations. d'opérations et de guerres, de crises et d'implications de l'armée américaine à travers le monde, bien sûr. Mais aujourd'hui, moi, je vois pas de changement de cap. Après, c'est vrai que la perception côté taïwanais est différente. Mais je pense que la première surprise vient surtout de l'option de barrières douanières, en fait, des droits de douane élevés. À la fois, donc, il y a eu des tensions dès le début de Donald Trump sur les questions tarifaires, comme si finalement Taïwan était un pays lambda parmi d'autres. Et deuxième chose aussi, les pressions technologiques, puisque dans un de ses discours, Donald Trump a évoqué le fait que Taïwan finalement aurait quasiment volé les technologies américaines. Et donc, c'est des mots extrêmement forts, bien sûr. Donc là, il y a eu bien sûr une surprise et un agacement côté taïwanais. Il y a toujours ce questionnement, bien sûr, du soutien, de la réalité, de l'efficacité du soutien américain à Taïwan en cas d'attaque. De toute façon, en réalité, c'est vrai que Taïwan n'a pas le choix. À la fois parce qu'il a besoin de ce soutien, de ce parapluie, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Mais aujourd'hui, il n'a pas le choix, mais il bénéficie encore, sans aucun doute, de ce soutien, dans un contexte d'asymétrie encore des rapports de force avec la Chine. Et c'est ça aussi qui fait dire que 2027, bon, c'est un peu avancé comme un chiffon rouge, ou comment dire, attention, méfiez-vous. Mais je veux dire, les États-Unis, à présence militaire américaine dans la zone, restent plus fortes que celles de la Chine. En tout cas, les capacités militaires, notamment navales américaines, sont plus expérimentées, plus compétentes, même si la Chine rattrape rapidement. Donc, l'hypothèse aussi d'une invasion chinoise de Taïwan se pose mais en différents termes. Comme vous le savez, ces derniers mois, ces dernières années, la Chine a simulé un blocus de l'île. Les scénarios de différents ministères des armées à travers le monde considèrent éventuellement une invasion partielle de l'île, des territoires plus proches du territoire de ce qu'on appelle de Chine continentale. Mais côté chinois, il faut bien voir qu'ils ont à leur disposition différents outils, différentes options pour promouvoir leurs intérêts. Et on voit bien, notamment lorsqu'on lit le document de 2022 sur la question taïwanaise publié par le bureau chinois en charge de ces affaires, qu'ils considèrent l'option militaire comme la dernière des options. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écarter dans l'analyse et qu'il faut considérer qu'ils ne peuvent pas s'en servir. Mais on voit vraiment qu'ils considèrent que l'outil économique doit être vraiment utilisé à plein régime, c'est-à-dire à la fois en termes d'attractivité pour finalement favoriser certains secteurs taïwanais qu'ils considèrent comme favorables, ce qu'ils appellent des patriotes, mais aussi à travers l'outil de sanctions pour taper dur au portefeuille les institutions ou les individus qu'ils considèrent comme séparatistes. Et puis, il y a aussi tous ces outils cyber, informationnels, propagande, désinformation dont on a parlé. Et il y a aussi l'outil du droit. Et réellement, aujourd'hui, c'est important de prendre en compte l'approche chinoise. L'approche chinoise et la vision chinoise de l'île, c'est de dire, très bien, en fait, ce qui se passe à Taïwan, c'est à cause du DPP, le parti politique au pouvoir, hein, qu'il nomme explicitement comme un ennemi, encore plus depuis l'élection du président actuel, Lai Ching-te, mais aussi... C'est surtout du fait des provocations et des actions des forces étrangères hostiles, et il nomme explicitement les États-Unis. Donc, en réalité, à Taïwan, il y a une évolution de la perception, des identités, de la conception de l'identité taïwanaise, parce qu'on sait que de plus en plus de Taïwanais se considèrent avant tout comme Taïwanais, la majorité de la population. Et voilà, l'âge avançant, une nouvelle génération grandissant, plus il y a un sentiment d'appartenance à la population taïwanaise, à la culture taïwanaise. Mais côté chinois, on ne voit pas les choses comme ça. On considère que ces évolutions sont fomentées par l'Occident, sont fomentées par les États-Unis, et que leur réel fauteur de troubles dans la région et sur l'île, ce sont les États-Unis, quelle que soit l'administration. Et c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, à mon avis. C'est-à-dire que Taïwan est un point de cristallisation de la rivalité sino-américaine qui va se prolonger dans les prochaines années et qui va se maintenir, d'ailleurs, indépendamment des tensions technologiques ou commerciales. Parce que ce n'est pas qu'une question de tension, on va dire, sur des enjeux pragmatiques très concrets.
Alors, on va juste écouter un extrait d'un reportage de la RTBF qui décrit les manœuvres militaires chinoises de grande ampleur dans le détroit de Taïwan au début du mois d'avril 2025. Vous en parliez, Alice Ekman.
71 avions de chasse, 25 navires de guerre, l'avertissement de la Chine à Taïwan est clair. L'île est à elle et toute initiative séparatiste sera tuée dans l'œuf. Alors, toute la journée, l'armée chinoise s'est livrée à d'importants exercices de dissuasion. Entraînement à des frappes de précision, assaut sur des cibles maritimes, simulation d'un blocus de l'île, une mise sous pression expliquée à la télévision chinoise.
Il s'agit d'un avertissement sévère et énergique contre les forces indépendantistes de Taïwan et d'une action légitime et nécessaire pour défendre la souveraineté nationale et maintenir l'union nationale.
Des manœuvres fermement condamnées par les autorités taïwanaises. En réponse, elles ont à leur tour ordonné le déploiement d'avions, de navires et de systèmes de missiles. La pression est à son comble dans le détroit de Taïwan.
Alors, on a vu que la menace n'était pas seulement militaire et que la Chine comptait aussi sur l'influence culturelle, économique, informationnelle pour faire rentrer Taïwan dans le droit chemin, selon les autorités chinoises. Mais quand même, quand on voit ces manœuvres militaires, la menace de la force existe vraiment. Alice Ekman, vous avez parlé de la date de 2027. Est-ce que je peux vous demander d'où elle vient exactement cette date de 2027 et vous interroger sur une autre date qui serait en fait le centenaire de la République populaire de Chine, donc 2049?
Oui, alors c'est deux dates très intéressantes. Alors, 2049, c'est une date chinoise. C'est-à-dire que la Chine, comme vous le savez, fonctionne par planification avec des grandes dates butoirs. 2049, c'est de la République populaire de Chine, qui doit être l'année de l'avènement de la renaissance de la nation chinoise, ou du grand renouveau de la nation chinoise selon les traductions. C'est-à-dire que à cette échéance-là, 2049, la Chine doit être unifiée, la réunification doit être complète. C'est-à-dire que si on a un doute sur les objectifs de Pékin, on peut être sûr que la Chine veut dans tous les cas que Taïwan soit complètement sur territoire chinois à cette échéance-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est ce qui est communiqué, noir sur blanc, par la Chine. Et la Chine considère que voilà, le grand renouveau de la nation chinoise ne peut se faire sans cette réunification de Taïwan et que c'est la voie naturelle de l'histoire. Et puis, c'est aussi un argument national que la nation, les frères et sœurs des deux côtés, la grande famille ne pourra... Donc, c'est vraiment tout un discours très construit, mais aussi très ressenti par les membres du Parti communiste chinois. D'ailleurs, vous en parler en Chine, il y a souvent un consensus sur le fait qu'il doit y avoir une réunification. Même d'ailleurs au sein parfois des voix dissidentes qui sont critiques vis-à-vis de Xi Jinping sur Taïwan, il y a quand même à la fois bien sûr de la propagande et une formation des esprits, mais il y a aussi une vision que Taïwan doit être réunifié et cet objectif-là, officiel de 2049, est avancé noir sur blanc. Donc là-dessus, on n'a aucun doute. Sur 2027, l'origine est américaine. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est notre lecture extérieure, pas seulement américaine, parfois elle est partagée par d'autres analystes, mais c'est une proposition extérieure de dire, compte tenu de la modernisation, la consolidation des capacités militaires chinoises, donc c'est basé sur l'analyse de la modernisation de l'armée populaire de libération, cette analyse-là, qui est réelle et rapide, cette modernisation, la Chine aurait les moyens d'envahir Taïwan à l'horizon 2027, en tout cas de manière comparée. Tout à l'heure, on parlait de la prédominance ou de la supériorité militaire américaine dans la région au sens large. C'est vrai qu'au rythme où la Chine modernise son armée, conduit des exercices militaires conjoints qui ne sont pas uniquement des signaux envoyés, mais aussi des tests opérationnels pour progresser et s'améliorer concrètement sur le terrain. Donc 2027. Mais bien sûr, il faut bien se souvenir que ce n'est pas une date qui est suggérée par les Chinois, ni même il n'y a pas d'élément côté chinois qui indiquerait une stratégie d'invasion à cette échéance. Si, alors moi en tant que spécialiste de la Chine, s'il y avait une date intermédiaire, ça serait à mon avis pas 2027, plutôt 2035. D'un point de vue, on va dire, de la rhétorique et de la planification chinoise, parce que 2035 est une date intermédiaire pour le grand renouveau de la nation chinoise. 2027 ne correspond pas à grand-chose côté chinois. En tout cas, moi, je ne vois pas d'éléments qui indiquent cela. Et encore une fois, je dis 2035, je n'ai pas d'éléments autres que la séquençage de la planification côté chinois. Pour dire cela. Mais c'est intéressant à prendre en compte parce qu'en effet, je me souviens encore, même sous l'administration Biden, on a reçu en Europe de nombreuses délégations américaines qui martelaient cette échéance et ça a beaucoup fait débat avec des analyses divergentes. Mais ça amène aussi à la conclusion qu'il faudrait être prêt. Pas uniquement que côté asiatique, côté taïwanais, il faudrait se préparer à cette éventualité-là, mais aussi côté européen, c'est-à-dire se préparer à cette éventualité-là, avec aussi en tête Hong Kong. Même si Hong Kong est une situation totalement différente, ça a rétrocédé, c'est pas du tout la même situation que Taïwan, mais Hong Kong, comme vous le savez, il y a une adoption par Pékin, unilatéralement, d'une loi sur la sécurité nationale à l'été 2020, qui a surpris beaucoup, y compris en Europe. Et les réactions, finalement, ont été assez timorées, pas uniquement par manque d'unité, mais parce que, voilà, tout simplement, effet de surprise, on s'est dit, c'est une loi assez dure, mais qui ne sera pas appliquée de manière stricte. Et finalement, allons voir aujourd'hui, la question, c'est de dire, non seulement il faut prendre en compte la modernisation de l'armée populaire de libération, mais aussi être prêt, parce que ça peut arriver plus tôt que prévu.
Camille Grand, sur ces questions, est-ce que vous pensez que la troisième guerre mondiale peut commencer à Taïwan? Alors, on l'a annoncé en Ukraine pendant longtemps.
J'ajouterais aux dates que Alice a très justement
rappelé. Ça, c'est formidable. On fait la révolution dans les dates de l'invasion de Taïwan.
Il y a un élément qui est intéressant, c'est aussi le président Xi est au cœur de cette aspiration. Donc, à un moment ou un autre, même si son mandat n'est plus limité dans le temps, lui aussi n'étant pas immortel, quoi, jusqu'à nouvel ordre, on est dans quelque chose où il peut y avoir des évolutions de politique intérieure en Chine, avec des mouvements et les Taïwanais jouent aussi la carte de la durée en disant peut-être que le prochain leadership chinois sera moins enclin à la recherche d'une solution militaire ou radicale aux tensions du Détroit. Et il y a aussi, et ça c'est un élément important, le rythme des élections à Taipei, puisque Taïwan est une démocratie assez vibrante où les deux partis ont des chances de l'emporter. Ils se distinguent beaucoup sur des questions de politique étrangère et on peut imaginer une situation dans laquelle le parti historique, le KMT, le Kuomintang, qui est beaucoup mieux vu depuis Pékin, à un moment reviennent au pouvoir pour un mélange de raisons intérieures et extérieures et que ça apaise d'une certaine manière Pékin puisqu'il n'y aurait plus la rhétorique de l'indépendance, etc. Ou inversement, que le DPP restant au pouvoir et continuant à avancer son agenda de séparation avec la Chine et d'affirmation d'une démocratie taïwanaise très distincte, finissent par créer pour Pékin la tentation de pousser davantage cette île rebelle dans tout ça. Donc il y a une vraie tension, les dynamiques de politique intérieure, qui sont très différentes de part et d'autre du Détroit, jouent aussi sur ce calendrier militaire. Alors, pour revenir au calendrier...
Attendez, on s'arrête une minute sur cette question, parce que justement je voulais l'aborder. Ce serait un peu un scénario à la géorgienne, en fait, avec un parti revenant au pouvoir, se dirait, il vaut mieux, avoir des relations apaisées avec le grand voisin menaçant pour rester protégé, en fait. Vous y croyez, vous, à cette sortie de crise pacifiée à Taïwan, avec la Chine?
En cas de retour du Kuomintang, oui. C'est ça? Alors bon, il faudrait voir si le retour du Kuomintang est probable. Est-ce qu'il serait spontané ou aussi le résultat d'une opération de déstabilisation des informations chinoises? Parce que c'est ça la vraie question. Depuis longtemps, à Taïwan, on travaille sur comment protéger les campagnes électorales des ingérences chinoises. C'est pas un sujet nouveau, mais c'est vrai que les capacités des informationnels et de propagande chinoise se renforçant, c'est une vraie question. Moi, ce que je lis et ce que je comprends, c'est que la Chine va vraiment mettre en avant et déployer différents outils, différents angles d'attaque contre Taïwan avant de faire usage de l'option militaire au sens strict, même si la menace hybride est déjà présente. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'une attaque, etc. Mais c'est-à-dire que comparer tout ce qu'on fait, comparer ce qui se passe en Ukraine avec ce qui se passe dans le Taïwan, de mon point de vue, c'est pas tout à fait justifié, même si c'est intéressant d'un point de vue analytique. Mais la stratégie chinoise est différente, les moyens qu'on a la Chine sont différents et les vulnérabilités taïwanaises sont quand même importantes. La Chine, en fait, considère dans ses déclarations que son statut de deuxième puissance économique mondiale, même dans un contexte de ralentissement économique, est un outil très puissant d'attractivité, mais aussi de déstabilisation de l'île. Est-ce que ça répond à votre question sur la réunification pacifique? Ça ne sera pas forcément pacifique parce que les sanctions ne sont pas pacifiques, les opérations
Non, je veux dire un scénario à la hongkongaise où finalement la population accepte de renoncer à une démocratie parfaite.
Voilà, là-dessus, alors la population hongkongaise n'a pas accepté, ils ont été surpris et la peur s'est instaurée à Hong Kong. Oui. Non, mais je le dis parce que à Taïwan, c'est une démocratie installée. Avec ses forces et ses failles comme beaucoup de démocraties, mais c'est une, comme on l'a dit auparavant, vibrionnante, active, etc. Mais on n'est pas à l'abri d'une adoption unilatérale d'une loi qui serait différente de cette loi qui a été appliquée au territoire hongkongais compte tenu de la différence de statut et d'histoire entre, bien sûr, Taïwan et Hong Kong, mais qui ferait pression sur des individus et des acteurs taïwanais. Je pense par exemple à une loi avec application extraterritoriale sur des entreprises taïwanaises, mais aussi leurs partenaires partenaires étrangers ou aussi des opérations qui viseraient finalement à prendre en otage ou à kidnapper des Taïwanais en déplacement à l'étranger. Tout ça, c'est tout à fait possible. Enfin, prendre en otage, c'est-à-dire d'un point de vue chinois, ce serait rapatrier sur le territoire chinois. Ça, c'est déjà fait auparavant. C'est les Taïwanais qui sont basés sur le territoire taïwanais, etc. Mais c'est-à-dire qu'ils progressivement instaureraient un sentiment de peur individuel et entreprise, et sentiment de peur, lui, pourrait être très puissant parce que il faut pas rigoler, on a une différence de système politique extrêmement forte avec une population taïwanaise qui est pas toujours, personne n'est prêt à faire face à une dictature, mais c'est-à-dire que en fait l'instauration d'une peur, d'un sentiment de peur peut être très rapide et cette peur peut être paralysante et avoir des conséquences politiques et sociales très importantes. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer cet objectif-là. La Chine a déjà adopté sous Hu Jintao une loi anti-sécession. Mais cette loi pourrait se transformer vers une loi d'unification. En tout cas, l'outil législatif pourrait être appliqué de manière différente, mais assez fine, pour viser spécifiquement des acteurs et des individus taïwanais qui, à terme, ont peur de se déplacer, ont peur de commercer avec l'étranger, ont peur d'intervenir, et progressivement, cela muselle une partie de la population par la peur.
Et c'est là que la question américaine est importante.
J'allais vous interroger là-dessus.
C'est-à-dire que dès lors que les Américains sont plus ou moins fermes dans leur soutien, Pékin va être tenté de pousser cet avantage, d'exercer des pressions, et de ce point de vue-là, nourrir non seulement à travers les campagnes de désinformation, dans la sphère informationnelle, sur les réseaux sociaux, etc., mais même en mettant ça de côté, le discours d'un Kuomintang qui dit « Avec moi, on va mieux gérer la Chine parce qu'on sera moins provoquant. » Puisque c'est la grande division de la politique taïwanaise qui est une division, c'est assez étonnant quand on visite la première fois, c'est un des rares pays où c'est la politique étrangère qui est le facteur de division principal de la vie politique dans l'île, et avec vraiment la question de la relation avec la Chine qui est très déterminante dans le positionnement des uns et des autres. Mais une fois qu'on a dit ça, moi ce qui m'inquiète le plus, pour revenir à l'hypothèse du conflit, c'est presque un conflit par erreur. C'est-à-dire, effectivement, quand les Américains disent 2027, ils font une analyse purement militaire en disant, voilà, en 2027, les Chinois auront suffisamment de bateaux pour traverser le détroit et amener des troupes, suffisamment de missiles pour tenir à distance la flotte américaine, et donc il faut qu'on se prépare à cette échéance-là. Bon, c'est une manière de focaliser les esprits de leurs propres militaires et de leurs alliés dans la région, et du gouvernement taïwanais qui n'a pas forcément d'ailleurs ce calendrier en tête. L'hypothèse qui est problématique, et on voit la répétition de ces crises-là, c'est des Chinois qui multiplient les exercices, y compris des exercices assez problématiques, c'est-à-dire qui créent des quasi-blocus de l'île, qui compliquent le trafic aérien, des attaques contre les câbles sous-marins qui entourent l'île, des simulations de tirs, etc. Et de se trouver, au fond, dans un moment... Et là, il y a un parallèle intéressant qui n'est pas l'Ukraine, mais qui est plutôt le moment crise de Cuba. C'est-à-dire où les deux dirigeants, et à Washington et à Pékin, estiment que on est dans le moment du test. On va voir si les Américains sont fermes dans leur soutien. On va voir si les Chinois reculent comme ils l'ont toujours fait depuis 1949. Parce que les crises américano-chinoises autour de Taïwan, elles ont existé très fortement dans les années 50. Il y avait même des bombardements, des îles plus proches du continent, des jeux de pouvoir qui ont mis les États-Unis et la Chine pas très loin d'un conflit ouvert dans les années 50. Donc, et d'arriver dans ce moment, ou de part et d'autre, on se dit c'est le moment du test, et donc il faut montrer ses muscles un peu plus que d'habitude. C'est-à-dire pas seulement dire je mets la flotte en alerte ou je fais un passage d'avion dans une zone un peu tendue, mais d'aller jusqu'à alors se déployer dans des endroits difficiles ou tirer un missile, même s'il est censé tomber au milieu de l'océan, pour démontrer qu'on ne peut menacer la flotte américaine, etc., etc. Et la Chine ayant développé toute une série d'outils qui sont vraiment bien conçus pour ce scénario, l'idée qu'on peut essayer de détruire un porte-avions américain, et détruire un porte-avions américain, c'est couler 3000 marins, c'est pas anecdotique,
c'est un acte de guerre.
C'est un acte de guerre absolument indiscutable. Et donc d'avoir au fond une crise, finalement comme on en a déjà trois fois par an aujourd'hui, c'est-à-dire où il y a voilà un exercice militaire un peu agressif, des tensions de part et d'autre, des déclarations du gouvernement taïwanais montrant la volonté de rester indépendant, des déclarations du gouvernement chinois un peu belliciste, une rhétorique qui s'emporte un peu, et des Américains à qui tout le monde dira, y compris leurs autres alliés asiatiques et voire leurs alliés européens, faites attention, là, on vous regarde, et c'est le grand test de... est en train de se jouer le leadership américain au XXIe siècle. Mmh. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut avoir, je dirais, des erreurs de calcul, hein, de part et d'autre. Alors, dans le passé, les choses sont retombées dans des crises de ce type-là. Hein. Je veux dire, la crise de Cuba n'est pas devenue la Troisième Guerre mondiale, en 1962, dans quelque chose qui y ressemblait un petit peu. Mais on peut avoir des fautes de calcul, et c'est là que le côté imprévisible de Trump est problématique, parce que si les Chinois estiment qu'il ne va pas, lui, certes le Pentagone dit tout ça, mais lui ne va pas réagir, et au contraire, il a une surréaction parce qu'il estime qu'il se fait avoir et que les Chinois n'ont pas saisi la main tendue pour trouver un deal, etc. Donc c'est un peu ça le risque qui est devant nous, et quand même avec quelque chose qui emporte des conséquences qui vont bien au-delà du détroit de Taïwan, puisque c'est pas la reconquête d'un petit bout de territoire marginal. On est au cœur de l'économie mondiale, dans une zone qui est absolument clé pour tout le commerce international. On est dans une île qui est le producteur de semi-conducteurs les plus avancés, et donc même un simple blocus aurait des conséquences massives pour l'économie digitale mondiale. On est dans une situation où c'est pas... Je dirais, si je poussais même, on n'est pas dans un scénario qui peut être contenu comme les crises ou les guerres russo-géorgiennes, voire russo-ukrainiennes, où il pouvait y avoir une lecture en disant ce qui se passe en Ukraine reste en Ukraine.
Alors justement, vous parliez des semi-conducteurs. On va écouter une archive de LCI qui date du 1er mars 2025 et qui parle justement des tensions entre Taïwan et les États-Unis autour de l'industrie des semi-conducteurs. On va entendre successivement Donald Trump, puis le président taïwanais Lai Ching-te.
Nous voulons que ces entreprises viennent dans notre pays avec tout le respect qui leur est dû. Taïwan nous a volé notre place dans le domaine des puces électroniques. Nous avions Intel, nous avions ces grandes entreprises qui réussissaient si bien, et elles nous ont été enlevées. Et nous voulons récupérer ces activités, nous voulons qu'elles reviennent aux États-Unis. Dans le même temps, nous renforcerons la coopération entre les États-Unis et Taïwan dans le domaine du développement des technologies et de la fabrication des semi-conducteurs de pointe. Nous travaillerons ensemble pour maintenir l'ordre sur le marché des semi-conducteurs, façonnant ainsi une nouvelle ère de partenariat économique stratégique entre les États-Unis et Taïwan.
Alors, Camille Grand, on voit quand même les efforts américains pour délocaliser une partie de l'industrie des microprocesseurs taïwanais sur le sol américain, et certains disent que c'est quand même aussi une manière d'abandonner progressivement l'île. Ma question à moi est la suivante. Est-ce que, en fait, le fait que Donald Trump paraisse beaucoup moins attaché que ses prédécesseurs aux idéaux démocratiques, est-ce que ce fait peut affaiblir le soutien américain à Taïwan, ou est-ce que la politique étrangère américaine ne se définira que par la rivalité avec la Chine?
Alors, il y a une tension objective, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté tout un courant de pensée dont on parlait tout à l'heure à Washington, qui est la rivalité avec la Chine est l'élément déterminant du XXIe siècle. C'est ce que le Pentagone appelle le challenge structurant pour les armées américaines. C'est la conviction que si les États-Unis ne maîtrisent pas et n'arrivent pas à rester la superpuissance dominante dans leur relation avec la Chine, ils vont perdre pied à l'échelle globale. Et ce courant de pensée est très fort et bipartisan. À côté de ça, il y a effectivement une chose assez intéressante et problématique avec Trump, qui est que la démocratie américaine ne fait plus de la promotion de la démocratie l'angle principal de sa politique étrangère. Et de ce point de vue-là, une force importante des Taïwanais depuis les années 80, qui était d'être une des démocraties les plus démocratiques du monde, hein, et d'ailleurs dans tous les classements, c'est un des pays les plus démocratiques du monde à beaucoup d'égards, par la vitalité de sa démocratie, c'est des institutions, des contre-pouvoirs, une presse libre, etc., etc., le fait que cet angle-là de « je défends la démocratie et l'alliance des démocraties contre les autoritarismes » est moins présente dans le discours américain sous l'administration de Trump. Enfin, il y a l'élément économique. On écoutait les prises de position sur cette affaire des semi-conducteurs, qui est extraordinairement intéressant, parce qu'il y a un Trump qui, en réalité, dit un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, il dit « vous nous avez piqué la technologie », technologie qui a été développée par TSMC, la compagnie taïwanaise de semi-conducteurs, qui est à la pointe de cette technologie par elle-même, on a envie de dire. Ils n'ont pas été la volée aux États-Unis et sont le premier fournisseur mondial de cette technologie. C'est pour les Taïwanais, ils utilisent une expression que je trouve amusante, qui est celle du bouclier de silicone. C'est-à-dire de dire, nous avons, grâce à ces usines qui fournissent le monde entier en semi-conducteurs très avancés de dernière génération, quelque chose qui fait que le reste du monde ne peut pas être indifférent à ce qui se passe à Taïwan. Et donc, à côté du Taiwan Relations Act, des relations qu'ils peuvent nouer avec les États-Unis, les pays, les démocraties asiatiques ou de l'Indo-Pacifique, les Européens. Il y a cette idée que leur carte technologique et le fait de disposer de cette avance dans ce domaine est un atout. Atout dont ils jouent sur deux tableaux. Le premier, c'est personne ne souhaite que cette île soit bombardée, soumise à un blocus, parce que ce serait très mauvais pour l'économie mondiale. Et grâce à cette technologie qu'on ne peut pas vraiment remplacer, où il n'y a pas beaucoup de fournisseurs alternatifs, en tout cas capables de produire dans des quantités suffisantes, même si TSMC s'est diversifié avec des implantations au Japon, en Europe, et maintenant aux États-Unis, avec l'annonce d'une grande usine installée aux États-Unis qui viendrait faire ça. TSMC, c'est cette entreprise taïwanaise stratégique qui est la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui est donc l'entreprise taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs qui fait les puces les plus avancées, les nanopuces, et qui a une vraie avance dans ce domaine à l'échelle mondiale en réalité. Mais avec des Taïwanais qui jouent un jeu assez intéressant qui est de dire « bon, on va construire cette grande usine aux États-Unis, mais ça va prendre des années, il faut les mettre au niveau, il faut former les personnels, etc. » Donc, qui font aussi attention de garder ce bouclier de silicone en gardant une forte empreinte sur leur territoire. Mais est-ce que Trump, dans ses obsessions commerciales, va à un moment mettre Taïwan dans la liste des pays pas sérieux et donc à qui il en veut ? Et dans ce cas-là, reviendra toute la problématique de la crise stratégique, puisque ça durcirait la relation entre les deux pays et ça pourrait donner à Pékin l'idée qu'il faut profiter de Trump à la Maison-Blanche parce que il a fait de Taïwan, comme l'Union européenne ou comme d'autres pays, ou comme la Chine d'ailleurs, un adversaire au plan commercial et qui ne bénéficie d'aucun traitement de faveur et qui même agace les États-Unis.
Alice Ekman, quand on met ces deux armées face à face, l'armée chinoise qui s'est considérablement renforcée depuis ces dernières années et la quand même relativement petite armée taïwanaise, en cas d'invasion chinoise, les Taïwanais, ils tiennent combien de temps ?
Alors là, je pourrais pas vous donner un chiffre précis, je vais pas me tromper. Puis d'ailleurs, il y a divergence, il y a beaucoup de brainstorming sur ces scénarios, en fonction aussi de type d'attaque, du calendrier, etc. Une chose est certaine, seule l'armée taïwanaise ne ferait pas le poids, on l'a déjà dit. Elle a besoin du soutien américain, et c'est aussi combien de temps mettraient les États-Unis pour venir soutenir Taïwan. C'est aussi la rapidité et l'ampleur du soutien américain qui se pose. C'est pas uniquement la comparaison en termes d'asymétrie des rapports de force, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est vraiment le soutien américain qui doit être analysé en fonction du calendrier aussi. Une chose est certaine, c'est que d'un point de vue chinois, la réunification, c'est pas une question ni économique ni technologique. Pour revenir peut-être à ce que disait Camille, si je puis me permettre, c'est-à-dire que, bien sûr, côté taïwanais, il y a un avantage stratégique à mettre en avant leur atout technologique pour dire, attention, ce qui se passerait aura des conséquences mondiales, et puis aussi vous avez intérêt à prendre clairement conscience des enjeux dans le territoire de Taïwan. Aujourd'hui, on a tendance à peut-être suranalyser la dimension technologique dans les tensions. C'est-à-dire, pour la Chine, la question de la réunification était déjà valable avant les tensions autour des semi-conducteurs.
C'est des raisons stratégiques et des raisons de modèle politique.
Ah oui, en fait, c'est une question d'unité nationale pour les Chinois. Il faut revenir peut-être aux bases, mais c'est vraiment une question qu'on pourrait qualifier de nationaliste. De toute façon, c'est la guerre civile qui n'a pas été résolue. Et aujourd'hui, c'est deux choses. C'est l'unité de la nation Et c'est aussi faire face aux États-Unis. Parce que quand on revient à la rhétorique chinoise, mais qui n'est pas que de l'affichage et de la communication, ils considèrent, et là je cite, que ces forces extérieures, donc c'est-à-dire les États-Unis, utilisent Taïwan comme un pion pour affaiblir le développement et les progrès de la Chine et obstruer le renouveau de la nation chinoise. Donc on est bien au-delà du cadre, on va dire, de la réunification au sens territorial du terme. C'est-à-dire que les États-Unis utiliseraient Taïwan pour que la Chine ne complète pas, ne termine pas son ascension, si vous voulez. Et ça, c'est très intéressant à prendre en compte. On est au-delà de la question technologique, parce que, à la fois, pour la Chine, c'est pas une question technologique, mais aussi, comme vous le savez, sur les semi-conducteurs, ils montent en gamme quand même assez rapidement. Ils commencent à produire aussi des puces de taille plus réduite qu'au cours des dernières années. Et c'est pas non plus une question économique. Parce que, à juste titre, il faut rappeler que le détroit de Taïwan concentre, bien sûr, on passe des voies maritimes d'acheminement des marchandises stratégiques pour l'économie mondiale, etc. Mais la Chine est vraiment prête à payer le prix d'une réunification. C'est-à-dire que là, penser en termes de coercition économique, comment contenir les ambitions de la Chine sur le plan économique en lui faisant prendre conscience des conséquences que cela aurait sur son économie, c'est un mauvais calcul. C'est ne pas comprendre la vision et les ambitions chinoises dans le détroit. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que je rejoindrai l'analyse. En tout cas, le risque d'escalade est aussi à prendre en compte à l'aune de l'absence de garde-fous. C'est-à-dire que, comme on sait depuis maintenant plusieurs années, le commerce n'a aussi pas les mœurs, mais c'est particulièrement vrai dans le détroit de Taïwan. Et l'indépendance technologique n'adoucit pas les mœurs non plus. Donc on est dans une situation, dans des objectifs politiques qui, en cas de l'arbitrage, seraient plus forts que les conséquences économiques ou technologiques à terme.
Camille Grand, sur cette question de l'obsession politique en fait chinoise vis-à-vis de Taïwan, c'est aussi Taïwan le contre-modèle absolu pour la Chine. C'est celui qui prouve que le monde chinois est totalement soluble dans la démocratie.
Alors ça joue bien sûr beaucoup dans la perception de Xi et dans la perception de Taïwan finalement qui est plus problématique comme étant une île démocratique qu'en étant une île autocratique, ce qu'elle a été quand même pendant les 40 premières années de son existence. Hein. Le Kuomintang et Chiang Kai-shek, et c'était une autre forme d'autocratie nationaliste, avec une répression des mouvements démocratiques, étudiants, etc., etc., pendant très longtemps. Là, il y a quelque chose qui est effectivement problématique vu de Pékin, qui est le contre-modèle, et en plus un contre-modèle qui réussit plutôt, c'est-à-dire qui est à la fois prospère, etc., et par rapport au narratif du modèle asiatique, qui serait un peu moins dans celui des démocraties libérales, il y a ça. Je reviens un instant sur la question de la forme que pourrait prendre la crise, parce qu'on a tendance à dire que la crise militaire, on imagine un truc, une invasion. Il y a toutes sortes de variantes, et c'est ça qui est inquiétant dans le scénario d'une crise, c'est qu'on a l'hypothèse extrême d'un débarquement, très compliqué quand même à Taïwan, il n'y a pas tant de plages et ce serait pas si facile que ça, mais le blocus, le bombardement, les pressions militaires sur les infrastructures seraient quelque chose qui pourrait donner beaucoup d'effets et provoquer ce que Alice évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire une vraie inquiétude de la population taïwanaise pour la faire céder à des demandes déraisonnables en combinant ça avec des pressions plus dans la sphère informationnelle. Donc, on ne peut pas voir cette crise comme étant quelque chose de noir ou blanc et de dire strictement le jour où les Chinois auront assez de bateaux pour faire le 6 juin 44, ils vont y aller. Ce sera forcément quelque chose de beaucoup plus multifacteur et multidomaine.
C'est la guerre hybride, en fait, comme elle se joue dans la plupart des crises internationales aujourd'hui. L'heure a sonné de la fin de cet épisode consacré à la loi du Congrès américain qui régit les relations avec Taïwan en 1979. Merci beaucoup Camille Grand et merci aussi Alice Ekman. C'était Les Grands Accords Internationaux, une émission d'Isabelle Lasserre réalisée par Laure-Hélène Planchet avec à la technique aujourd'hui Élise Leu, attachée de production Théa Corlaire. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr.